Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver dans Par les temps qui courent, tous les soirs une conversation, ce soir avec Alban Lefranc.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux t'appeler, papi.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps, qui courent.
Marie Richeux avec Alban Lefranc.
Voilà un homme qui écrit des lettres mentales au patron du bistrot où il prend son café matinal pour lui poser des questions. Un homme qui adresse une lettre tout aussi mentale à son ami d'enfance pour lui suggérer de diminuer drastiquement sa consommation de cocaïne. Un homme qui voit le monde avec le filtre des hashtags en usage sur les sites pornographiques. Un homme qui barbouille ce même monde avec les couleurs de son amour filial tout en luttant contre l'invasion de sa propre mère. Un homme passionné de traduction biblique, attiré par la figure de Thomas Munzer, un homme dont la puissance de l'imaginaire l'enferme et le libère tour à tour. Un homme qui vit dans un monde tout proche du nôtre et que vous inventez pour lui, Alban Lefranc, l'homme qui brûle paraît en cette rentrée littéraire aux éditions Rivage. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir Marie-Jean.
On est ravis de vous retrouver, Alban Lefranc. Vous étiez venu nous parler en d'autres temps, dans d'autres émissions de la revue La Mer Gelée, et ce n'est pas complètement sans lien avec le texte qu'on va évoquer aujourd'hui, dont on commence par écouter un extrait.
Le patron du Mistral est plongé dans le Parisien. L'horloge derrière lui indique 11h50. La frénésie du déjeuner va bientôt commencer. Je parcours la page qu'il brandit sous mes yeux. Un écolier de 5 ans a été retrouvé hier midi en pleine rue dans le 6e arrondissement de Paris. L'écolier avait fugué, semble-t-il, et franchi sans peine le portail de l'école pourtant sécurisé. L'enfant était sorti, malgré les deux gendarmes en faction derrière le checkpoint à l'entrée du bâtiment scolaire. La présidente s'est rendue sur les lieux et a ordonné une enquête approfondie. Des dysfonctionnements intolérables sont apparus. L'enfant a réussi à s'échapper de la cour de récréation sans que personne l'arrête, sans que personne lui demande son ID chip. L'opposition réclame la démission du ministre de l'Intérieur, qui vient d'accepter celle du préfet. Selon un premier bilan médical, l'enfant semble en bonne santé, malgré plus de 2 pleines heures, 120 minutes, absolument seul. Rien n'indique jusqu'à présent qu'il ait été violé ni converti à l'islam, mais des examens complémentaires sont en cours. J'hésite à m'attabler dans la salle du fond pour déjeuner d'une saucisse à l'igot, mais j'ai laissé ma carte chez moi. Je me promets de glisser un billet dans la poche de ma veste la prochaine fois avec un carnet et un stylo.
Alban Lefranc, Romain de Bec de Lièvre vient de lire un extrait de votre texte « L'homme qui brûle ». On s'est bien avancé dans le roman, on est presque à son milieu, c'est une scène de café, il y en a plusieurs, parce qu'il me paraissait assez important de planter ce que j'ai appelé un monde inventé pour l'homme qui brûle. Non seulement parce que ça peut nous permettre de comprendre des choses, mais aussi parce que j'ai l'impression que c'est presque la première fois que vous le faites aussi clairement, d'inventer un monde qui n'est pas exactement le nôtre, un monde fictionnel, pour dérouler quelque chose qui ne sera pas linéaire, qui ne sera pas la vie d'un personnage, mais qui existe.
Oui, oui, il y a une espèce d'effet de bégaiement à notre monde contemporain, une volonté aussi d'exagérer, d'amplifier, d'outrer. Il y a une volonté vraiment d'outrance, enfin, il y a eu un parti pris en tout cas d'outrance, à la fois vers l'horreur, vers l'ultra-violence, et puis vers une forme de farce, de burlesque aussi, il y a pas mal de moments. Ouais.
Est-ce que c'était une nécessité comme ça d'avoir une... Peut-être un décor, d'une certaine manière. C'est comme ça que vous l'avez pensé?
Un décor, vous pensez au café, par exemple?
Oui, ou... non, mais même, je veux dire, de manière générale, une sorte de cadre pour qu'ensuite, comme il y a beaucoup de choses qui vont dans beaucoup de directions différentes, parce que c'est assez mental comme roman, comme si ça tenait. C'était le cadre, en fait, d'une certaine manière.
Ça me paraissait nécessaire de l'ancrer dans un arrondissement que je connaissais bien, si c'est votre question, à savoir le 20e arrondissement. Et c'était quand même important qu'il y ait quelques repères visuels, factuels, à peu près incontestables. Il y a plusieurs cafés qui sont cités, qui existent vraiment, pour lui permettre ensuite de complètement vriller. Je pense aussi qu'il y avait il y a eu pas mal de strates d'écriture, plusieurs moments. C'est un livre que j'ai écrit sur plusieurs années, mais il y a eu, c'était une façon aussi de, pas tout à fait délibérée ni consciente, mais de réagir à un présent qui est très délirant lui-même, hein, où la police peut mutiler des gens dans une espèce d'indifférence quasi totale, quoi, et où on est dans un vrai moment orwellien aussi, hein, où vraiment c'est la guerre, c'est la paix, quoi, un moment où la parole publique apparaît très disqualifiée, grotesque par certains moments. Donc du coup, il y avait d'où cette présidente dans le livre, d'où ces extraits de journaux, une manière de encore une fois, c'est pas des choses très délibérées, mais une manière de pousser le curseur très très loin, et en sachant que j'allais être rattrapé très vite, j'avais presque hâte que le livre paraisse, parce que j'avais l'impression que j'allais être rattrapé par le réel, quoi. Ce qui est à peu près avéré là déjà.
Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, il y a un enfant qui fuit donc, malgré l'environnement hyper sécurisé de l'endroit où il est, et qui pendant 120 minutes laissé seul n'a été ni violé ni converti à l'islam. C'est à la fois horrible je trouve, d'éloquence sur le monde contemporain, mais j'avoue que j'ai trouvé ça quand même très 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 drôle, et c'est pas le seul moment du livre que j'ai trouvé très drôle. Il est très grave, mais il est très drôle, ce livre, Alban Lefranc. Est-ce qu'il vous a fait rire en l'écrivant? Ou pas du tout? C'est vraiment la gravité qui l'a emporté?
Non, non, il y a un parti pris comique dont j'étais assez conscient. Après, je m'en souviens pas très bien. Oui, il y a certainement des passages qui m'ont fait marrer à écrire, ouais, certainement.
Pas plus que ça, quoi. Vous n'avez pas l'impression d'avoir eu un ton
spécialement? L'idée, c'était d'aller très loin, donc d'où ce centre-ville de Paris qui a été interdit aux femmes de plus de 36 ans pour maintenir à son meilleur le tourisme français. Mais le truc, c'est que c'est à peu près la réaction qu'on a à certaines dépêches ou à certains titres des journaux. Enfin, c'est très étrange le moment dans lequel on est quand même, où vraiment on a l'impression d'être face au Gorafi en permanence, quoi. Vraiment.
On rappelle ce que c'est le Gorafi, c'est un site parodique d'information.
Voilà, ouais. Absolument, ouais.
Si l'on fait du cinéma ou si l'on veut faire du cinéma, qu'est-ce que c'est avoir une idée? Lorsqu'on dit tiens, j'ai une idée. Parce que d'une part, tout le monde sait bien qu'avoir une idée, c'est un événement rare. Ça arrive rarement. Avoir une idée, c'est une espèce de fête. C'est pas courant. Et d'autre part, avoir une idée, c'est pas quelque chose de général. On n'a pas une idée en général. Une idée, elle est déjà vouée. Tout comme celui qui a l'idée est déjà voué à tel ou tel domaine. Je veux dire que une idée, c'est tantôt une idée en peinture, tantôt une idée en roman, tantôt une idée en philosophie, tantôt une idée en science. Et c'est évidemment pas le même qui peut avoir tout ça. Si vous voulez, les idées, il faut les traiter comme des espèces de potentiels. Les idées, ce sont des potentiels, mais des potentiels déjà engagés dans tel ou tel mode d'expression.
Une archive de Gilles Deleuze, Alban Lefranc, dont je ne connais pas la date, donc je ne peux pas la donner, je ne peux même pas être approximative. Simplement, ça faisait partie de ses cours à l'université. Peut-être sur la question de la potentialité. L'homme qui brûle, donc cet homme dont je décrivais quelques actions, il a un projet et il dit que ce projet est une sorte de colonne vertébrale. Tout à l'heure, je disais que le monde fictif, ce bégaiement du monde contemporain, lui servait et nous servait à nous de cadre, de colonne. Lui, il en a une plus intime et plus personnelle, et son projet, à la fois un projet littéraire dont on pourra peut-être parler, mais aussi, j'ai l'impression, pour vous, une manière de, là encore, de railler l'idée que si on n'a pas de projet, c'est la merde, quoi. C'est vraiment, c'est la débâcle totale. Le monde envoie le message selon lequel quelqu'un sans projet, c'est personne.
Oui, alors c'est pas si ironique que ça, c'est-à-dire que j'ai vraiment construit un personnage qui est éduqué à mort, hein, qui est vraiment dans les pattes une éducation qui l'a quand même bien laminée. Le monde dans lequel il vit étant une espèce d'amplification de cette éducation, c'est comme si ses parents, petits bourgeois, catholiques, fascistes, pour le dire simple, avaient pris le pouvoir dans le pays, enfin sa mère en tout cas. Et donc, avec empêtré comme il est dans tous ces par tous ces fils qui le nouent, quoi, le projet est réellement ce qu'il maintient à flot, c'est-à-dire que aussi aberrant soit-il ce projet qui voudrait réunir des choses très disparates, on va en parler, qui sont par exemple Thomas Münzer ou Alain Delon dans le cinéma de Melville ou telle actrice porno. Mais à chaque fois, ce sont des tentatives de faire sens, de renouer des fils, de... Alors on va peut-être en parler plus en détail après, mais par exemple Münzer, il y a vraiment... par Münzer, il y a une espèce de manière de se reconnecter, de reprendre, de se nourrir à la puissance d'une parole, d'une parole biblique, mais avant tout catéchisme, enfin juste le surgissement de cette parole là on en parlera sans doute plus en détail après. Chez Delon, dans Melville, c'est des façons de long dans le Samouraï, dans le Cercle Rouge, dans certains films de Jean-Pierre Melville, c'est finalement une façon un peu mythologique, un peu naïve, un peu dépassée, mais c'est une façon pas tout à fait ridicule d'être un homme. En tout cas, ça le sort un peu de ses empêchements. Quant à Mavra ou Megan Smile, c'est un peu plus compliqué, mais c'est une...
Qui pour l'une... Une jeune femme qui rencontre sur un quai de train avec qui il a une correspondance par message téléphonique. Voilà. Et pour l'autre, une actrice de film pornographique.
Voilà. Et pour ces deux femmes, bah, il y a des tentatives avortées, mais de s'adresser à elles, finalement, tout simplement. Donc c'est un type qui s'efforce au milieu du désastre, en fait, qui s'efforce de se reconstruire un corps et une parole, quoi. Si on prend ces deux...
À travers le projet, à travers justement ce que disait Deleuze, la potentialité du projet.
Voilà.
J'ai tort de le railler, finalement.
Non, vous avez absolument pas tort, parce qu'il y a effectivement quelque chose d'un peu burlesque. Hein, c'est un personnage, c'est un Buster Keaton par certains côtés. Il est toujours très empêché, il est toujours très aberrant, il est toujours très à côté. Il va se retrouver dans un bar d'hôtel de luxe, et il va falloir qu'il cite à ses amis méchoniques de manière complètement aberrante, décalée, insensée.
Traducteur de la Bible.
Voilà. Donc il est toujours très très à côté, mais il perd pas tout à fait pied. Enfin, il essaye de pas perdre tout à fait pied, en tout cas, dans ce monde qui autour de lui est délirant, mais à peine plus que le nôtre, en fait. Un monde qui est à peine plus délirant que le nôtre.
Et que lui, parce qu'il y a aussi quand même une sorte de rencontre entre ses délires à lui et sa dispersion et le délire du monde. Donc comme si le projet, la potentialité du projet, c'était la ligne à suivre, et sinon autour c'est les alligators, quoi. C'est la perte totale.
Oui, certes, il est cerné, il est traqué. Il s'accroche, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'alligators autour de lui, oui, c'est sûr. En tout cas, c'est comme ça qu'il imagine le monde autour de lui, c'est un grand paranoïaque, clairement.
Si on va du côté un peu plus du réel, Alban Lefranc, est-ce qu'il y avait pour vous un projet littéraire? Est-ce qu'il y a eu, dans l'idée, dans les années, puisque vous dites que vous avez mis longtemps à l'écrire, comme ça un horizon, une potentialité pour prendre les mots de Deleuze qui vous a tenu dans l'écriture?
Oui, après c'est difficile de revenir là-dessus, de dénouer les fils, puisque comme je vous le disais, ça s'est étalé sur plusieurs années. Il y avait le projet un peu idiot, un peu bête, qu'évoque lui-même mon personnage, Luc Giardi, de faire quelque chose comme le Orlando de Virginia Woolf, où un personnage change de sexe et d'époque. Bon. Ça, j'y ai pas tout à fait réussi, même si, quand même, il se déplace un petit peu.
Il se déplace sur le champ de ses orientations sexuelles. En tout cas, notamment. Il se laisse des possibles.
Il se laisse des possibles, voilà. Voilà, c'était une des envies que j'avais. Et il y avait une autre envie, c'était vraiment de... Ça me travaille depuis un moment, le texte biblique, pour le dire vite, quoi, et notamment la traduction de Méchonique, qui du coup encore une fois fait ressurgir la puissance de ces paroles là par exemple, mettons des prophètes, ou de la Genèse par exemple, ou des psaumes, avant toute récupération par des catéchismes, en fait, par du religieux, en fait. Il fait ressurgir cette parole aberrante, cette parole tordue, cette parole trouée, qui est maintenant à plusieurs millénaires, et qui est une pure folie poétique, quoi. Avant tout contenu, finalement, de tout contenu dogmatique, finalement. Et j'avais envie d'essayer de faire quelque chose avec ça. C'est très difficile, parce que c'est une parole qui nous déborde, c'est une parole d'une puissance incroyable, qu'on a du mal à saisir, qui n'est pas narrative, ou qui l'est assez peu, finalement. Et via Münzer, via ce théologien du 16e siècle, théologien révolutionnaire, mon personnage ressaisit un peu de cette parole-là. C'est au milieu du bordel ambiant, c'est quelque chose qui le tient un peu, quoi.
C'est pas la première fois que justement cette parole prophétique, elle vous appelle ou elle vous intéresse quand vous dites ça. Je pense par exemple au texte que vous avez écrit sur Mohamed Ali, ou même au texte que vous avez écrit sur Maurice Pialat. Il y a des choses justement de cette façon de dire avant le réel, de projeter les mots avant presque même qu'ils puissent être compris, qui étaient déjà à l'œuvre. Est-ce que ça veut dire que c'est une sorte de travail qui se poursuit de texte en texte?
Oui, absolument. C'est quelque chose que je vais encore poursuivre un moment, je pense. Il y a une espèce de fascination pour la profération poétique, ouais, absolument. Et puis aussi cette fascination pour cette tradition là un peu souterraine qui ressurgit comme ça par éruption. C'est très étrange la circulation de ces textes, comment ils franchissent les millénaires, comment ils nous réapparaissent. Et puis il y a aussi quelque chose de très noué dans le texte, c'est-à-dire mon personnage, Luc Giardi, c'est un gamin qui a vraiment grandi dans le catholicisme le plus débile, version très ritualisée, version où on annonce les textes sans les comprendre, en fait. Donc par exemple, le latin est encore présent, latin qu'il ne comprend absolument pas, évidemment, ni les gens autour de lui, mais donc il a grandi dans cette espèce de corsetage des corps et des âmes, et du coup, dans sa lecture de Münzer, dans sa lecture de certains textes bibliques, c'est une façon de retourner contre son éducation ces textes-là, qui sont beaucoup plus forts que ce qu'on a fait une version débile du religieux. Je ne sais pas si je suis tout à fait clair, mais voilà, c'est-à-dire aller chercher à la source ce qui peut faire exploser le carcan de son éducation, quoi.
C'est quelque chose qui revient justement, son éducation à Luc Giardi, notamment par la figure de l'ami d'enfance, cet homme qui va rejoindre dans un grand bar d'hôtel luxueux et qui est accompagné d'une escort girl, qui est vraiment là aussi dans une sorte de, je sais pas pourquoi j'ai vraiment cette image d'alligator, mais de délire, quoi, où tout est menaçant, où il y a plus de réel sur lequel s'appuyer, on sait plus quel corps est en face de nous, on sait plus si on a envie de faire l'amour ou pas, si on a fait l'amour ou pas, si on va le
le faire ou pas, si on va finalement se faire tuer ou pas dans cet hôtel, bref. Et cet ami d'enfance-là, il est le prétexte pour redérouler des choses qui viennent de beaucoup plus loin et qui vous font, Alban Lefranc, écrire des trajectoires, je sais pas, de la marginalité vers le centre forcé, quoi, de la province vers Paris, d'une certaine classe sociale vers une autre. Ça, c'est aussi au cœur de ce projet, L'Homme qui brûle.
Oui, absolument. J'avais besoin de l'ancrer aussi dans une réalité historique précise. Donc, c'est la Basse-Normandie, plus précisément le bocage normand, donc qui est une terre assez catholique. Et ce sont les années 80. Donc, ça surgit à pas mal de moments. Ce sont les années Mitterrand, c'est l'apparition de Jean-Marie Le Pen à la télévision à l'heure de vérité, d'après ce que je sais, sur injonction du président de la République, dans des réalités historiques, sociales, donc la petite bourgeoisie, et géographiques précises, quoi. C'est-à-dire, comment vraiment aussi des paysages, des paysages marquent, imprègnent les corps, hein. Des paysages, une éducation.
C'est presque un roman de formation par certains égards.
Oui, absolument. Ça, c'était tout à fait délibéré. Oui, absolument. Alors, c'est vrai qu'on est dans un territoire, dans une histoire française de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une grande tradition de ça. Du roman de formation, du jeune provincial qui va à Paris, du jeune écrivain qui va se frotter à Paris. Oui, absolument. Ces éléments-là sont très présents et délibérément présents. Oui.
Et donc, parmi, je vous en prie.
Non, non.
Et donc parmi les espèces d'étoiles qui permettent à votre personnage principal de saisir ce qu'il traverse, il y a Thomas Münzer.
On considère que Münzer était un esprit religieux, certes un extrémiste, mais un esprit religieux et un théologien, et qu'il n'a jamais cessé d'être un théologien. Et sa doctrine religieuse, sa doctrine politique, je veux dire, avait des bases religieuses, et en particulier celle-ci, que les riches et les nobles barre aux pauvres la porte de l'évangile. Parce qu'ils sont tellement préoccupés par la vie quotidienne, tellement accaparés par la recherche du pain quotidien, qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le loisir de lire l'écriture et de s'imprégner d'elle. Par conséquent, il fallait rendre au peuple la possibilité d'accéder à l'évangile. Pour lui, il s'agissait, pour préparer les voies du Seigneur, d'établir ou de rétablir l'égalité primitive.
C'est assez beau la manière, dans sa propre façon, d'énoncer la théorie de Münzer. Jean de Lumeau s'en mêle un peu les pinceaux en 2007 dans une émission surprise par la nuit sur France Culture entre politique et religieux. À un moment donné, on ne sait plus s'il dit que Münzer, ça développe une théorie politique ou ça ne développe que une théorie religieuse. Quelle est la manière dont Luc Jardy, votre personnage, et peut-être vous, Alban Lefranc, l'avez lu, Thomas Münzer? Il est très présent, hein, notamment parce que vous reproduisez une sorte de carnet de notes, de carnet de recherche de votre personnage principal.
Bah de plein de manières, ce sont des textes difficiles à appréhender, hein, pour nous. Mais
vous pouvez le resituer?
Bon, on est au début du XVIe siècle et Thomas Münzer est une espèce de radicalisation de la réforme, en fait, de Luther. Hein. Il c'est d'abord un disciple, un compagnon de route, si on veut, de Martin Luther. Et puis il va proposer une forme de radicalisation absolue du protestantisme, pour aller très vite. De quoi s'agit-il? Alors, en gros, si on replace un petit peu des choses générales, il s'agit de déjà dans le geste de Luther de revenir au texte et de rétablir la langue vernaculaire. On va plus faire la messe en latin. On va traduire les textes, donc du coup là en allemand, ce qui est un geste colossal. Hein. Et Luther est un éminent traducteur de la Bible. Münzer aussi va traduire un certain nombre de textes bibliques. Et on va prendre, alors si on se concentre plus sur Münzer, on va prendre au pied de la lettre le texte biblique. Donc, tout ce qui prône l'égalité, on va le mettre en place immédiatement. C'est leur horizon de pensée, en fait.
On entend. Le mettre en place dans la cité.
Dans la cité immédiatement. Donc, il n'y a pas une Jérusalem céleste. Il faut la réaliser ici et maintenant. Hein. Münzer dit, il faut parler directement à Dieu. Il faut parler directement à Dieu. Dieu vous écoute. Et Dieu va renverser les puissants, là, immédiatement. Pas après-demain, pas demain, pas ce soir, immédiatement. Donc, il faut bien... C'est compliqué. Moi, je ne suis pas historien non plus. C'est des choses que j'appréhende aussi à tâtons, hein. Mais il faut bien saisir que c'est leur horizon de pensée à ces gens-là. On peut pas les balayer d'un revers de main comme des fanatiques. Ils ne sont obligés de penser dans ce cadre religieux et ils le réalisent ici et maintenant. Dans ce cadre religieux, ils poussent les potentialités de ce cadre religieux à leur maximum.
Ça veut dire que vous y voyez surtout une pensée révolutionnaire en fait, pas tant une pensée d'extrémisme religieux.
Non, certainement pas. Oui, c'est une pensée révolutionnaire à mes yeux, absolument. Mais encore une fois, dans un cadre historique qui n'est pas du tout le nôtre, qui est difficile à appréhender pour nous, qui est un peu aberrant, il faut imaginer qu'il réunit ce Thomas Müntzer des dizaines de milliers de paysans qui vont se faire massacrer, par une armée de seigneurs parce qu'ils attendent une intervention divine. Ils ont quelques armes, ils ont très peu de choses. Ça va tourner vraiment à la boucherie. C'est un phénomène très étrange historiquement parce que ça précède vraiment largement la Révolution française. On peut dire que ça condamne pour plusieurs siècles, en tout, bon, c'est des hypothèses rapides comme ça, mais
un soulèvement massif.
Le progressisme en Allemagne en tout cas, ça le lamine vraiment. C'est une impasse qui va perdurer pour un certain temps en Allemagne. Mais voilà, donc moi, mon personnage, c'est aussi, dans ce roman-là, j'avais vraiment une envie de télescoper au maximum des univers et des temps, en fait. Donc, vraiment le haut et le bas, le plus trivial et le plus cérébral, si on veut. Donc, à la fois, du porno, le corps étonnant, le corps de déjà mort, le corps comme ça tout en os de Delon chez Melville, la parole de Müntzer. Il y avait l'idée de faire tenir ces différentes temporalités et puis en même temps ce que c'est qu'une enfance ravagée dans la basse Normandie catholique. Voilà, l'envie de faire se télescoper au maximum différentes époques, différentes
ce qui est aussi histoires. Un rythme très très contemporain, très de notre présent. Moi, c'est quelque chose que j'ai noté quand vous dites une envie de se télescoper. On peut avoir une manière de l'entendre très théorique ou très sensible, au contraire. C'est un projet parfaitement littéraire de faire se télescoper tous ces matériaux. Mais moi, j'y ai vu aussi une manière de traduire, là encore, un rythme de l'époque. C'est-à-dire que quand il est plongé à la maison Reiner, dans la lecture de Thomas Müntzer, il est aussi en train de répondre à des textos et peut-être d'envoyer tout à l'heure des photos de son sexe dans les toilettes. C'est-à-dire, toute la pensée, elle est coupée tout le temps. Et nourrie, mais elle est aussi coupée tout le temps, d'une certaine manière.
Oui, je pense que le roman essaye de rendre un tout petit peu compte de ces télescopages mentaux qu'on ne cesse pas d'effectuer, en fait, hein, qu'on ne cesse pas d'effectuer le cerveau humain, finalement. Donc, J'ai tenté effectivement d'en mettre un certain nombre sur la page, mais ce sont des choses finalement très banales, très courantes. Il n'y a pas plus courant que ça, que ces télescopages-là. Nos fameuses machines là, les smartphones sont une espèce de concentré absolu de l'intime, du public. Ce sont des fétiches absolus finalement. Hein. Donc il y avait l'envie de ressaisir ça, peut-être aussi via Steve Jobs. J'ai écrit une pièce sur Steve Jobs où déjà je travaillais un peu, j'essayais de réfléchir un petit peu à ces étranges machines.
Fondateur de la très grande multinationale Apple, construit des smartphones. Mais il me semble que pour moi, c'est aussi un texte. Alors, je ne sais pas à quel point l'écriture a été concomitante avec cette pièce de théâtre montée par Robert Cantarella sur Steve Jobs, mais qui est travaillée en effet par les rythmiques, mais aussi par des destins très contemporains, californiens, comme ça. Il se trouve que le porno qui est ausculté par Luc Jardy, il est aussi de cet endroit-là. Quand on rencontre votre personnage, il est déjà avec toutes ces choses, toutes ces forces en présence. Mais vous, qu'est-ce qui vous a mis sur la piste de la lecture de Müntzer? Est-ce que vous savez?
Oui, je m'en souviens. C'était un projet de pièce que j'avais au départ. Il y a eu un tâtonnement comme ça. Comment imaginer des lectures possibles, scéniques, sur un espace scénique de ces textes-là. Pour repréciser, il faut bien imaginer qu'il y a un potentiel vraiment scénique ahurissant quand on y pense, même si c'est très difficile pour nous de trouver une voie vers ces textes-là qui sont des montages de citations. C'est une langue en allemand très complexe, très riche. C'est le moment où la langue allemande s'invente aussi, hein, à l'écrit. Et ce n'est pas la langue de Luther, hein. C'est un allemand très 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 entremêlé, très heurté. Bon, là, ce qui est incroyablement scénique, c'est que je reviens beaucoup sur un prêche de Münzer, qui est un prêche qu'il tient aux princes. Les princes sont dans une chapelle, viennent observer cette espèce d'imprécateur, de prêcheur qui commence à les effrayer un petit peu. Ils peuvent pas comme ça tout de suite le mettre aux arrêts. Il faut quand même qu'ils l'écoutent. Et il leur dit écoutez, chers princes, voilà, moi je vais vous citer 2-3 extraits bibliques assez précis. Il va falloir que vous soyez de notre côté, sinon on va vous massacrer, quoi. Et il leur dit face à face. Enfin, j'imagine, hein, c'est très complexe, hein, je suis d'imaginer ce contexte-là, mais on a évidemment très très peu de choses finalement, mais pour ce qu'on en sait, c'était vraiment un sermon prononcé. Et d'ailleurs, Münzer le précise, hein, qui est très vite imprimé par Münzer. Donc, on est tout près de l'invention de l'imprimerie ici. Hein. Il faut imaginer la puissance de propagation de ces textes. Hein. L'imprimerie a 75 ans, quelque chose comme ça. Et Münzer prononce ce sermon et le fait immédiatement après imprimer et diffuser, en précisant bien sermon prononcé en présence des princes. Bon, j'imagine que si ça avait été faux, on l'aurait attaqué là-dessus. Donc, on peut supposer cette espèce de scène très étrange de quelqu'un qui vraiment appelle à une insurrection, ni plus ni moins, et qui le dit les yeux dans les yeux aux puissants de cette région. Et à plusieurs moments, mon personnage Luc Jardy essaye de revenir sur cette scène un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette chapelle? Comment il leur a parlé? Est-ce que Münzer a peur? Comment il se tient? Ah, puis Münzer, c'est vrai, il a pas de smartphone. Ah, c'est vrai que Münzer risque pas de recevoir une photo sexuelle qui viendrait le déconcentrer. Donc il y a une espèce de fantasme un peu idiot toujours. On est toujours j'essaie de tenir toujours les fils, quoi, du sérieux et du pur de la farce d'une certaine manière, hein. Mais la farce, c'est toujours un esprit de sérieux un peu trop poussé, quoi. Et donc mon personnage Luc Jardy revient constamment à cette espèce de scène dans la chapelle,
mais comme un idéal, quoi, par exemple.
Bah, un idéal tout à fait idiot et impossible, mais il essaye à plusieurs reprises. Il se demande, il est dans un café, il se demande s'il va pas prendre la parole et
prêcher à son
et tour. Prêcher comme ça autour de lui, mais ça marche pas très bien. D'ailleurs, il essaie de prendre la parole, mais il est pas sûr d'avoir réellement parlé, d'ailleurs.
Bon, on y viendra d'ailleurs, parce qu'il lui manque quelques mots. Il y a aussi une forme de langage très troué qui habite Luc Jardy et qu'il mettra sur la piste de sa mère, mais on y viendra. J'ai oublié de dire que c'est un roman qui s'ouvre sur un attentat. Un sacré attentat. Et en vous écoutant parler de cette prédication, de cette manière de parler, je me suis dit, est-ce qu'il n'y avait pas aussi dans les sources de l'écriture de L'homme qui brûle, dès son titre même, une partie de la violence extrême qui a traversé les rues de la capitale française et d'autres grandes villes françaises ces dernières années, Alban Lefranc?
Oui, bah évidemment, oui, le livre se fait l'écho de tout ça. On se fait l'écho à la fois de cette violence et se fait aussi l'écho de la manière qu'on a de vivre avec cette violence, de la mettre un peu de côté, parce que sinon on pourrait pas vivre, tout simplement. Donc constamment à un arrière-plan, des attentats ont lieu, et mon personnage n'est pas cynique ni indifférent. C'est
non,
simplement,
il a peur même parfois,
mais c'est quand même repoussé à l'arrière-plan, parce que sinon il ne pourrait pas vivre, tout simplement. Donc c'est le roman voulait se faire aussi l'écho de cette manière qu'on a de vivre avec ça, tout simplement.
Et qui conditionne toutes les existences qui sont écrites dans ce livre-là, sans qu'il y ait d'ailleurs d'analyse de ça. C'est simplement, je sais pas, que c'est comme si vous disiez il fait un peu chaud ou il fait un peu froid. Bah, il fait un peu attentat en ce moment.
Voilà, absolument, exactement. C'est un phénomène météorologique quasiment, oui, absolument.
C'est un homme qui aime beaucoup organiser le monde, peut-être parce que c'est sa seule manière d'y vivre ou d'y survivre, notamment par équation. On écoute un extrait de votre texte.
Je m'assois sur une banquette au fond du bar, très loin de l'entrée, sur laquelle je garde un œil. J'ai le mur dans le dos, il me rassure. Personne ne risque de surgir derrière moi. Je surveille les allées et venues dans la rue et dans le café, ma machine sur les genoux. Le projet remplit le bar. Pierre pierre véritable qui tombera plus haut de la montagne dans la mer. Pierre qui remplira le monde. Tout fait signe vers le projet. Il s'agit de revisiter Megan Smile, Maman et Mavra avec Jean-Pierre Melville pour parvenir à Thomas Münzer. Je pourrais proposer l'équation suivante. Megan Smile plus Maman plus Mavra fois Jean-Pierre Melville égale Thomas Münzer. Ou Megan Smile plus Thomas Münzer plus Mavra fois Jean-Pierre Melville égale Maman. Tout est possible à présent, tout peut recommencer. Tout devient extrêmement simple avec Jean-Pierre Melville, avec Megan Smile venue en renfort dans le quartier. J'écris. La peur d'être frappé sur la bouche, dans la nuque. Maman est la logique même, imparable et bornée comme une équation de collège à une inconnue. 3x égale 3, trouvez x. Elle est infiniment présente. Elle est infiniment partout. Elle rôde dans le bar. Qu'est-ce que je fais avec elle? Avec son poids derrière moi. Avec les échos de ses phrases dans les miennes. Avec son rire qui éclate dans le mien. Est-ce que les images aimées, les merveilleuses images de Jean-Pierre Melville, peuvent rivaliser avec elle? Est-ce elle que je cherche dans Megan Smile? Est-ce que je me branle sans cesse, avec rage, avec jubilation, avec triomphe, avec dégoût, mais enfin toute la journée quand même, pour échapper à Maman? Je l'aime, sans aucun doute. Voici un début, j'avance. Je peux poser ce début devant moi. L'amour aberrant du chien battu pour sa maîtresse. Oh, le petit tas de mon amour filial canin sur la table du café. Waf, waf. Je murmure au petit tas de mon amour posé sur la table. Son appétit, sa voracité. Il faut commencer par là. Comment s'empêcher de l'aimer? Comment se retenir? Je l'aime comme ma scandaleuse. Comme la vieille femme indigne qui déchire l'ordre du monde. Comme Allah a ses 99 noms, Maman a ses attributs toujours prêts pour la susciter. La vengeresse, la criarde, la mugissante, la blessée, la larmoyante, la victime, la répudiée, l'indécente, la déçue, la courageuse, l'effrontée, la vulgaire, l'increvable. La Melvillienne ne fonctionne pas. Dans le café, le mur derrière moi n'a pas frémi. Personne ne l'attaque à la masse. Les choses tiennent. Je peux me souvenir. Contre les petits tas de cendres en quoi se transforment très vite les êtres, mon petit tas filial canin fait merveille. Avec cette petite boule, je barbouille des couleurs sur le monde.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux.
C'est un extrait de L'homme qui brûle que vient de lire Romain de Bec de Lièvre. Et là aussi, Alban Lefranc, on entend la manière dont ce télescope plein de contenu, de matériaux, de pensées. Qu'organise votre personnage Luc Jardy avec des équations mathématiques? Là aussi, c'est aussi une façon de tenir, quoi. Comment tout ça va tenir contre l'invasion de la mer? Parce que je disais, il perd des mots, comme on peut, je sais pas, perdre des cheveux ou des dents, cet homme. Il y a des moments où il n'arrive plus, il se souvient plus, c'est couillon, mais il doit citer un truc et puis ça lui vient pas. Ou une casserole, il y a des scènes très drôles avec son colocataire. C'est quoi le truc là pour faire chauffer des pâtes avec un manche, une casserole? Et c'est la perte de ces mots-là qui lui fait presque constater qu'il lutte contre l'invasion de sa mère. Évidemment, j'ai pas pu m'empêcher, un texte que vous avez publié dans la revue La Mer Gelée, sous un pseudonyme qui s'appelle Éléphant, et où il était question d'une
Caillou.
Figure...
Non, c'était Guillaume Caillou.
Guillaume Caillou, pardon. pas du tout, c'est un autre éléphant. Où il était question d'une figure maternelle.
Oui.
Alors, est-ce qu'il y a un lien entre ce qu'a pu ouvrir ce texte-là dans la revue La Mer Gelée et L'Homme qui brûle?
Oui, bah absolument. Dans La Mer Gelée, c'était un extrait du roman court, hein, tout simplement. C'est difficile de comment le truc s'est agencé, je sais plus. Je sais qu'on a eu la drôle d'idée dans La Mer Gelée à un moment donné de faire un numéro Maman, je sais.
Une revue prose, poésie et voilà. Français et allemand. Voilà. Traduction.
Et anglais, russe, anglais, et ancien russe. Français. Mais on a eu cette drôle d'idée il y a 2 ans ou 3 ans de faire un numéro intitulé Maman. Je ne sais pas d'où est venue l'idée, mais en tout cas, oui, ça a certainement cristallisé un certain nombre de choses. Je sais même plus si je crois que le ça m'a permis d'avancer à ce moment-là dans le roman. C'est une revue où on avance chacun sur nos projets et on raccorde de manière toujours plus ou moins aberrante au thème. Après, bah, comme on l'entend certainement dans l'extrait qui vient d'être lu, on est au-delà de la mer là. On est vraiment, on est aussi. L'idée c'était de pousser le curseur très très loin. En fait.
Pour tout.
Donc là, c'est même plus un complexe oedipien. Là, on est, je sais plus dans quoi on est d'ailleurs, hein, mais on est dans le post-psychose, je sais pas. Mais je pensais bêtement à ce film de Woody Allen où sa mère est dans le ciel et lui dit ce qu'il doit faire et les passants commentent. Bon, j'aurais adoré pouvoir écrire un truc pareil, quoi. J'aurais adoré qu'elle soit dans le ciel. Peut-être que c'est la présidente aussi, sa mère, finalement. C'est une hypothèse qui pourrait tenir la route.
En tout cas, l'une des hypothèses, c'est que la langue de la mer colonise la langue du pouvoir, qui est une langue dans votre roman, qui est une langue fasciste.
Oui, absolument. Bon, ça, il suffit juste de sortir dans la rue et de regarder les affiches ou d'ouvrir les journaux, je pense. Mais moment orwellien, donc je parlais d'Orwell et de 1984, c'est très étrange quand même. Je pense qu'Orwell n'avait pas prévu, anticipé, peut-être plus le film Brasil de Terry Gilliam. Orwell n'avait pas pu anticiper le côté aussi maternant de ce pouvoir, le côté doucereux. Et c'est ça que j'ai essayé de faire saillir à plusieurs moments dans le livre. Tout ça est au milieu de ce déchaînement de violence. Il y a des injonctions très très douces, il y a quelque chose de...
Comme quoi, par exemple?
Très douce, non, c'est pas le mot, mais c'est ce caractère d'idiotie absolue, tous unis contre le terrorisme, ou ce genre de hashtag parfaitement débile, en fait. Hein, qui... Je voulais aussi...
Ah oui, ou par exemple, moi, il y a quelque chose qui me vient, engagez-vous.fr sur des manières de rejoindre l'armée. Pour,
voilà, par exemple, oui. Donc, c'est très difficile de déminer ça, de faire sauter ça. J'ai essayé d'aller très loin dans l'exagération, mais encore une fois, on est constamment rattrapé finalement.
C'est très difficile aussi pour les écrivains et les écrivaines de faire, de déminer un langage qui serait contaminé ou complètement occupé, quoi, au sens de l'occupation guerrière, par le langage de cette mer affreuse ou par un langage sans sens, violent, détourné.
Bah, d'où toutes les tentatives qu'il fait avec ses références un peu idiotes, un peu avec son esprit de sérieux, donc Münzer, Delon, le porno, il essaie de se raccrocher, il essaie de s'adresser à des gens en fait, à plein de moments. Comment parler à autrui?
Parce que c'est rendu impossible par le monde dans lequel il vit.
Oui, absolument. Et donc c'est le roman décrit toute une série de tentatives d'émancipation, finalement, de libération, hein, de ce qui l'enchaîne. Alors ça se passe pas très très bien, mais il essaye en tout cas.
Oui, vous dites c'est au-delà de la mer, mais enfin il y a une des grandes entreprises d'émancipation où il est aidé par des amis californiens. Où il va quand même retrouver sa mère et la malmener sacrément. Une des entreprises d'émancipation et de libération, c'est de la tuer.
Oui, absolument. Oui. Encore une fois, tout est pris au pied de la lettre. On prend symptôme au pied de la lettre. Voilà. Donc la mère très puissante est dans le ciel. La mère très puissante, il faut la tuer à un moment donné ou la mettre dans une poussette pour voir ce qui va se passer.
Notamment pour voir si on pourrait y retrouver des mots perdus.
Notamment, voilà, tout simplement. Donc il y a vraiment l'idée de... Peut-être qu'une façon de... Il y a un horizon possible comme ça de libération par la parole, mais c'est quelque chose que j'avais déjà dans mes livres précédents. C'est une espèce de fantasme absolu d'une parole qui serait en adéquation à un corps, quoi. À part quelques rares moments... Peut-être de amoureux, ce sont des choses très rares, mais en tout cas, c'est quelque chose auquel il croit, quoi. Il y a cette phrase incroyable de Rimbaud qui dit « Voici nos os à nouveau revêtus d'un corps amoureux ». Il y a ce désir-là, ce fantasme-là, effectivement, d'une parole vivante dans un corps vivant. Mais
c'est rare.
C'est très rare, oui, quand même.
Alain Delon.
Je ne dirais pas que je suis un bon ou un mauvais garçon, je crois que je suis un personnage à la Melville et un personnage de Melville. C'est-à-dire que comme un peu comme dans le samouraï, dans le cercle rouge, Melville est fidèle à son thème qui est la solitude. Donc je suis encore le personnage d'un solitaire. Avec cette différence près, c'est que dans le Samouraï, il y avait Jeff Costello et tout seul, et que là, il y a quatre personnages, et disons que c'est, si vous voulez, quatre solitudes qui convergent l'une vers l'autre et qui se retrouvent à la fin et voir ce qu'il succède, voir ce qu'il arrive. Mais ce qui est important avec Melville, c'est pas la profession de foi de ces personnages. Je crois que Melville prend ses personnages au second degré, et ce qui importe, c'est ce qu'il en fait, ce qu'ils deviennent et ce qu'il en arrive. Peu importe s'ils sont des policiers ou de l'autre côté de la barrière. Mon personnage, je veux dire que c'est un homme marqué par le destin, et je crois qu'aucun sentiment ne l'anime, sinon celui de l'amitié et du sens de l'honneur.
C'est
énorme. Mais je crois que c'est un personnage donc marqué par son destin et qui marche vers lui inexorablement et qui connaît exactement l'échéance qui l'attend.
C'est un beau rôle pour toi.
C'est un très beau rôle, oui.
Alain Delon, en 1970, au micro de Monique Berger, parlant des personnages à la Melville et du rapport au destin. Vous avez beaucoup cité le nom de Melville jusqu'à maintenant, sans qu'on s'y attarde trop, Albin Lefranc et Alain Delon aussi. Luc Jardy, lié directement à Melville, qu'est-ce qu'il y puise, votre personnage, dans cet univers cinématographique?
Il y puise des petites choses très ténues. C'est une espèce de souvenir qu'il a, gamin, d'avoir vu le début du Samouraï. Pour ce gamin éduqué à mort et absolument dépourvu de corps, qui a grandi dans une éducation où le corps est nié, tout simplement, il voit dans le samouraï une façon de se tenir, une façon d'être droit, une façon d'être un homme. Alors tout ça est très mythologique, tout ça est un peu idiot, hein, bien sûr. Hein. Mais lui, gamin, ça lui a servi, en tout cas. Voilà, ça lui a aidé. Il se souvient de ça. Donc à partir de là, il tisse aussi toute une série de souvenirs liés à Melville. C'est-à-dire, il raconte des scènes de son enfance en fait qui sont complètement tirées de films de Melville. C'est sa petite mythologie personnelle. Et c'est vrai que les films de Melville sont des choses très étranges, très fascinantes et qui tiennent bien la route quand même. Il a poussé le formalisme très loin tout en rencontrant un très vaste public. C'est très étonnant, le cinéma de Melville. Mais je me disais, voilà, c'est une façon... comment dire, il y a un matériau politique assez fort aussi, hein. Melville a une façon très, alors Melville qui, je crois, ou se disait gaulliste, a une façon très étonnante de filmer la police, parce que la police dans ses films de gangsters est la police de Vichy, c'est la même, hein. C'est vraiment une espèce de force obscure qui traque les gangsters ou les résistants. C'est très étonnant, son cinéma a des propositions politiques assez étonnantes pour quelqu'un qui se dit gaulliste à l'époque. Mais bon, c'est une autre époque. Dans ce cinéma très stylisé à l'extrême, oui, Luc Jardy, mon personnage, trouve quelques petits indices, des petites postures, des façons d'être un homme, tout simplement.
Oui, parce que vous dites que c'est idiot, et au début c'est moi qui étais sévère avec votre personnage Albin Lefranc, et là c'est peut-être vous qui l'êtes un peu trop, parce que finalement ça dit aussi quelque chose d'assez fondamental, c'est que dans un monde où tout se dérobe, il y a des accroches possibles avec les productions artistiques et les productions de la pensée.
Absolument.
Et ça, c'est pas complètement idiot que de faire vivre ça à une des individualités qui serait Luc Jardy ou toutes les autres qui seraient nous, les lecteurs et les lectrices. De dire, il y a des accroches possibles et solides et qui tiennent la route, qui tiennent la route et le temps, qui serait l'art et la pensée.
Ah oui, absolument. Ça, c'est le pari permanent du livre ou du personnage, en tout cas. Oui, absolument. Sinon, c'est l'effondrement général. Oui, bien sûr. Oui.
Donc c'est pas idiot, quoi.
Enfin, non, c'est pas idiot.
Il se passe quelque chose de structurant dans les bibliothèques pour Luc Jardy.
Pardon ?
Il se passe quelque chose de structurant dans les bibliothèques, manifestement, pour Luc Jardy.
Absolument. Il fait pas que se branler en bibliothèque. Il va chercher des puissances réelles, effectives. Non, je disais idiot parce qu'évidemment, si on a tous en tête Alain Delon beaucoup de gens ont vu cette espèce d'Alain Delon un peu iconique chez Melville.
Et pour ceux qui l'ont pas vu, il ressemble à quoi cet Alain Delon iconique chez
Melville ? C'est une espèce de mort qui marche, hein. C'est très étonnant. Enfin, c'est-à-dire que ce que j'essaie d'articuler, c'est que mon personnage est vraiment, vraiment mal barré au début. Et ce personnage d'un peu de mort qui marche, c'est déjà pas mal pour lui. C'est déjà un début. Il part de très bas, hein. Donc il est plutôt dans le nul et non advenu. Là, il y a un mort qui marche, assez beau.
C'est un début dans la vie, quoi.
C'est un début dans la vie. C'est pas génial, mais bon, on fait ce qu'on peut. Hein. C'est une des premières portes qu'il a. Je disais idiot dans le sens où
du modèle plaqué de quelque chose qu'on reproduirait,
oui,
par exemple.
Oui, c'est un peu concon, quoi. Et puis mon personnage, du coup, a un Borsalino comme Delon. Enfin voilà, il mime un peu ce modèle-là qui est déjà totalement anachronique chez Melville, qui copie en fait le cinéma américain, le film noir américain. Donc on est vraiment, c'est ça qui est assez marrant, c'est que ça fait des séries de références vers quelque chose finalement d'absent, quoi. Méchenic essaye de traduire finalement un texte qu'on ne pourrait lire fondamentalement qu'en hébreu, finalement, ce qui va être un petit peu difficile pour nous. Melville fantasme une espèce de film noir hollywoodien avec des profils de personnages qui finalement n'ont jamais existé, qui sont des purs fantasmes déjà à Hollywood, et lui les fantasmes dans le Paris des années 60. Donc c'est assez marrant, c'est toujours des projections
vers une origine qui n'existe pas,
mais qui finalement fait nous tenir un peu debout. C'est peut-être ça qui est étrange. Je sais pas si je suis peut-être un peu...
Si, vous êtes très clair en vous écoutant. Je pense à la figure du père que vous rappelez à plusieurs reprises dans le texte, comme ça. Qui est une figure qu'on attrape assez difficilement dans les filets.
Oui.
Mais qu'elle a.
Qu'elle a, alors qu'il creuse des trous de taupe dans le jardin. On marche dessus. Il est sur les seuils. On l'attrape avec un filet à papillon. On lui demande alors qui es-tu? Il dit je suis le père. Voilà. Oui.
Reviens pas trop souvent. On sait que t'es là maintenant.
Voilà. On sait que t'es là. Voilà. Encore une fois, hein, c'est vraiment un parti pris de pousser tout très loin, en fait, dans une forme d'outrance. Voilà.
On va finir avec Méchonique lui-même.
L'oralité, c'est une notion à redécouvrir. On vit dans ce dualisme du signe sur l'idée simple qu'il y a de l'écrit et il y a de l'oral. Et c'est pourquoi il suffit, puisque c'est un modèle extrêmement abstrait, le signe, il suffit de prendre en compte que la réalité empirique, ce n'est pas quelque chose de binaire. Chaque fois qu'on applique du binaire sur la réalité multiple, je crois que on réalise la bêtise. La bêtise est profondément binaire dans tout ce qui concerne le langage et la société. L'opposition entre l'individu et la société, entre les mots et les choses, tout ça, ce sont des choses évidentes et en même temps complètement falsificatrice. Et là, ce n'est pas de l'oral contre de l'écrit, c'est de l'écrit, du parler et de l'oral. Et l'oral, qu'est-ce que c'est ? L'oral, c'est à la fois le primat du rythme et de la prosodie dans le discours, si bien qu'il y a de l'oral dans l'écrit. Rabelais, c'est oral. Et il y a une oralité spécifique dans la Bible qui est en même temps une socialité. Ce que dit très bien le mot hébreu mikra, qui est d'ailleurs très parent du mot Coran. C'est la lecture. C'est une lecture collective. On ne lisait pas des yeux, on lisait forcément à voix haute et on lit ensemble. Et donc, il y a quelque part, je crois, Mauss, qui a une formule superbe qui dit que le rythme est une faculté d'ensemble.
La richesse des archives de France Culture, quand même. 1991, la voix d'Henri Méchonic dans les grands entretiens d'hier et d'aujourd'hui. Le personnage, Luc Jardy, quand il est complètement en galère, quand vraiment tout devient complètement fou, il se dit « il faudrait que je réussisse à citer Méchonic ». Si je citais Méchonic, si je leur parlais de Méchonic et de la traduction de la Bible, ça irait mieux. Et en fait, quand on entend cette archive qui dit « l'oral est l'oralité contenue dans la Bible, c'est une manière de faire socialité, de faire ensemble. » Je repense à ce que vous disiez, Alban Lefranc, en disant « c'est un homme, mon personnage principal, qui lutte pour enfin s'adresser à... »
Oui, absolument. Et, Et il est émerveillé, mais comme je le suis, hein, par cette folie qu'est la traduction de Méchonique, oui, absolument, qui fait ressurgir cette parole prophétique. C'est dommage, je devrais avoir un extrait sous la main à lire, mais et du coup, oui, il essaye,
ce serait le commun, une parole qui réussirait à enfin atteindre son but.
Bah, en tout cas, on pourrait être plusieurs à l'entendre. Comme ça peut être très beau de regarder, de partager un film, de partager un poème. Il y croit profondément à ça.
Et ça le rend hyper joyeux. Hein. Nous, on a regardé avec Lise Marie une photo de Méchonique comme ça, juste pour. Et
ah oui.
Il est dans sa bibliothèque et il est rayonnant.
Oui, 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 ça se.
Et on s'est dit bon, bah la pensée, la traduction, la lecture, ça rend vraiment hyper joyeux.
Oui, oui. Et il y a ce parti, il y a cette confiance là aussi de Jardy, de mon personnage, dans ces pouvoirs là, dans. Il est très heureux dans pleine perdition dans un bar de citer, de lire deux trois passages, oui, des psaumes ou deux trois passages de la Genèse. Donc ouais, c'est mais le en fait on a le livre s'ouvre avec une exergue, hein, qui dit l'exorcisme, réaction en force, on attaque de Bélier et le véritable poème du prisonnier. C'est une citation d'Henri Michaud. Il y a ce parti pris là aussi. Michaud parle de mettre les choses dans un sac. Enfin, la pensée du sac. Enfin, il y a une chez Michaud, d'une toute autre manière, il y a une confiance absolue dans les pouvoirs de la parole, quoi. Parole qui peut renverser le monde, qui peut le dire, parole qui peut dire le deuil. Les textes les plus sidérants sur le deuil, c'est les textes de Michaud, qui sont des choses les plus folles jamais écrites, qui s'appellent Nous deux encore. Donc oui, ce livre-là est traversé par une espèce de confiance inébranlable dans le pouvoir du verbe, quoi.
Merci beaucoup, Alban Lefranc. L'homme qui brûle est paru en cette rentrée littéraire aux éditions Rivage. Ce soir, à la prise de son, c'était Bernard Laniel, à la réalisation Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, c'est Romain Debec de Lièvre, Jeanne Aléos, Lucie Riandet et Marianne Chassor. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr et vous abonner à son podcast dans un instant, le journal 22h sur France Culture.